Kenilworth.
Les remparts extérieurs, contournant une large colline, enfermaient des jardins clos, des prés, des écuries et des étables, une forge, des granges et les fournils, le moulin, les citernes, les habitations de serviteurs, les casernes des soldats, tout un village presque plus grand que celui d'alentour, dont on voyait se presser les toits moussus. Et il ne semblait pas possible que ce fût la même race d'hommes qui habita en deçà des murs, dans ces masures, et à l'intérieur de la formidable forteresse qui dressait ses rouges enceintes contre le ciel d'hiver. Car Kenilworth était bâti dans une pierre couleur de sang séché. C'était l'un de ces fabuleux châteaux du siècle qui suivit la conquête, et pendant lequel une poignée de Normands, les compagnons de Guillaume ou leurs descendants immédiats, surtenirent tout un peuple en respect grâce à ces immenses châteaux forts plantés sur les collines. Le keep de Kenilworth, le donjon comme disaient les Français, faute d'un meilleur mot, car cette sorte de construction n'existait pas en France ou n'existait plus, le keep était de forme carrée et d'une hauteur vertigineuse qui rappelait aux voyageurs d'Orient les pylônes des temples d'Égypte. Les proportions de cet ouvrage titanesque étaient telles que de très vastes pièces étaient contenues, réservées dans l'épaisseur même des murs. Mais on ne pouvait entrer dans cette tour que par un escalier étroit où deux personnes avaient peine à avancer de front, et dont les marches rouges conduisaient à une porte protégée, hercée, au premier étage. À l'intérieur du keep se trouvait un jardin, une cour herbue plutôt, de 60 pieds de côté, à ciel ouvert, et complètement enfermée. Il n'était pas d'édifice militaire mieux conçu pour soutenir un siège. L'envahisseur parvenait-il à franchir la première enceinte? On se réfugiait dans le château lui-même, à l'abri du fossé, et si la seconde enceinte était percée, alors, abandonnant à l'ennemi les appartements habituels de séjour, le grand hall, les cuisines, les chambres seigneuriales, la chapelle, on se retranchait dans le keep, autour du puits de sa cour verte et dans les flancs de ses murs profonds. Le roi vivait là, prisonnier. Il connaissait bien Kenilworth, qui avait appartenu à Thomas de Lancastre et servi naguère de centre de ralliement à la rébellion des barons. Thomas décapité, Édouard avait séquestré le château et l'avait habité lui-même durant l'hiver 1323, avant de le remettre l'année suivante à Henri Torscol, en même temps qu'il lui rendait tous les biens et titres des Lancastres. Henri III, le grand-père d'Édouard, avait dû jadis assiéger Kenilworth 6 mois durant pour le reprendre au fils de son beau-frère, Simon de Montfort. Et ce n'étaient pas les armées qui en avaient eu raison, mais la famine, la peste et l'excommunication. Au début du règne d'Édouard Ier, Roger Mortimer de Chirk, celui qui venait de mourir en geôle, en avait été le gardien au nom du premier comte de Lancastre et y avait donné ses fameux tournois. L'une des tours du mur extérieur, pour l'exaspération d'Édouard, portait le nom de tour de Mortimer. Elle était là, plantée devant son horizon quotidien, comme une dérision et un défi. La région donnait au roi Édouard II d'autres nourritures à ses souvenirs. Du haut du keep rouge de Kenilworth, il pouvait apercevoir à 4000 vers le sud le keep blanc du château de Warwick, où Gaveston, son premier amant, avait été mis à mort par les barons, déjà. Cette proximité avait-elle changé le cours des pensées du roi? Édouard semblait avoir oublié complètement Hugh le Despenser, mais il était obsédé en revanche par la mémoire de Pierre de Gaveston et en parlait sans cesse à Henri de Lancastre, son gardien. Jamais Édouard et son cousin Torscol n'avaient vécu si longtemps l'un près de l'autre et dans une telle solitude. Jamais Édouard ne s'était confié autant à l'aîné de sa famille. Il avait des moments de grande lucidité et des jugements sans complaisance portés sur lui-même qui soudain confondaient Lancastre et l'émouvaient assez. Lancastre commençait à comprendre des choses qui, à tout le peuple anglais, paraissaient incompréhensibles. C'était Gaveston, reconnaissait Édouard, qui avait été le responsable, ou tout au moins l'origine de ses premières erreurs, du mauvais chemin pris par sa vie. « Il m'aimait si bien, » disait le roi prisonnier. « Et puis, dans ce jeune âge que j'avais, j'étais prêt à croire toutes les paroles et à me confier entièrement à si bel amour. » À présent encore, il ne pouvait s'empêcher d'être attendri, lorsqu'il se rappelait le charme de ce petit chevalier gascon sorti de rien, un champignon né dans une nuit, comme disaient les barons, et qu'il avait fait comte de Cornouailles, au mépris de tous les grands seigneurs du royaume. « Il en avait si forte envie !» disait Édouard. Et quelle merveilleuse insolence que celle de Pierre, une insolence qui ravissait Édouard. Un roi ne pouvait se permettre de traiter ses barons comme son favori le faisait.
« Te rappelles-tu, Torscol ? Comme il appelait le comte de Gloucester un bâtard,
et comme il criait au comte de Warwick « Va te coucher, chien noir !» Et comme il insultait aussi mon frère en le nommant « cornard », ce que Thomas ne lui pardonna jamais, parce que c'était vrai. Peur de rien, ce Pierrot, pillant les bijoux de la reine, et jetant l'offense autour de lui comme d'autres distribuent l'aumône, parce qu'il était sûr de l'amour de son roi. Vraiment un effronté comme on n'en vit jamais. En plus, il avait de l'invention dans le divertissement. Faisait mettre ses pages nues, les bras chargés de perles, la bouche fardée, une branche feuillue tenue sur le ventre, et organisait ainsi de galantes chasses dans les bois. Et les escapades dans les mauvais lieux du port de Londres, où il se colletait avec les portefaix, car il était fort en plus, le gaillard. Ah, quelles belles années de jeunesse Édouard lui devait. J'avais cru tout cela retrouvé en Hugh, mais l'imagination y pourvoyait plus que la vérité, vois-tu, Torscoll, ce qui rendait Hugh différent de Pierrot, c'est qu'il était d'une vraie famille de grands barons, et ne pouvait l'oublier. Mais si je n'avais pas connu Pierrot, je suis bien sûr que j'aurais été un autre roi. Au cours des interminables soirées d'hiver, entre deux parties d'échecs, Henri Torscoll, les cheveux couvrant son épaule droite, écoutait donc les aveux de ce roi que les revers, l'écroulement de la puissance et la captivité venaient de brusquement vieillir, dont le corps d'athlète semblait s'amollir, dont le visage bouffissait surtout aux paupières. Et pourtant, tel qu'il était, Édouard gardait encore une certaine séduction. Quel dommage qu'il eût de si mauvaises amours et chercher sa confiance en de si mauvais cœurs. Torscoll avait conseillé à Édouard d'aller se présenter devant son parlement, mais en vain. Ce roi faible ne montrait de force que dans le refus. « Je sais bien que j'ai perdu mon trône, Henri, » répondait-il, « mais je n'abdiquerai pas !»